Bonsoir. 15 000 personnes sur la place de la République à Paris à l'appel du comité Adama Traoré contre les violences policières et le racisme. Les manifestants bloqués par les forces de l'ordre ont été invités à se disperser en fin d'après-midi. Après quelques échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes, le rassemblement se poursuit. Pas de salariés polonais à l'usine PSA d'Ordin dans le Nord. Après l'émotion suscitée par son initiative et les critiques du gouvernement, le constructeur automobile dit réfléchir à une solution alternative qui permettrait embauche d'intérimaires français. Dans ce journal également, les salariés de l'enseigne La Halle qui manifestent à Issoudun contre 500 suppressions d'emplois annoncées. Pas de danger à Toulon après un incendie dans le Perle, un sous-marin nucléaire d'attaque. Il était désarmé et vide de tout combustible, précise la ministre de la Défense Florence Parly. Arte qui rend hommage au peintre méconnu James Tissot en direct sur les réseaux sociaux pour la réouverture prochaine du musée d'Orsay. C'est la vie connectée de Christine Siméon. Et puis la météo. Après les trombes d'eau d'hier dans le sud-est et le massif central, retour au calme pour tout le monde. Sauf ce soir encore des risques d'orages dans l'est, notamment sur la frontière allemande.
France Inter.
Dénoncer un déni de justice, dénoncer la violence sociale, raciale et policière. Ils ont été plusieurs milliers, 15 000 selon la préfecture, à se rassembler place de la République à Paris à l'appel du comité Adama Traoré, dont la figure principale, Assa Traoré, a rappelé le combat, le même, dit-elle, que ceux qui manifestent aux États-Unis depuis la mort de George Floyd. Sa mort a fait écho directement à celle de mon petit frère en France, a lancé Assa Traoré, qui demande la mise en examen des gens d'armes de Persan dans l'Oise, responsable selon elle de sa mort par asphyxie. Les manifestants qui devaient défiler en cortège jusqu'à la place de l'Opéra ont été bloqués par les forces de l'ordre. État d'urgence sanitaire oblige. Tout est resté relativement calme. Boris Allier, malgré quelques heures, les manifestants, toujours sur place, ont été invités à se disperser.
Oui, et la place de la République se vide petit à petit. Des manifestants, vous l'avez dit, qui ont gardé globalement leur calme malgré les quelques lacrymogènes. Quant à Assa Traoré, elle a profité de ce rendez-vous pour appeler le ministre de l'Intérieur à aller plus loin sur les interdictions de techniques d'interpellation.
On veut que toutes les techniques d'immobilisation que j'appelle mortelles soient interdites. Aujourd'hui, quand on dit gardien de la paix, ils ne devraient même pas user de cette violence-là. Ils devraient être les premiers à dire « on n'en veut plus ». Des pays frontaliers l'interdisent. Des pays aux États-Unis, des États aux États-Unis l'interdisent. Mais nous avons des policiers qui vont aller manifester pour avoir ce permis de tuer. Et ça, c'est honteux et scandaleux.
Justice pour Adama, pas de justice, pas de paix, voilà les slogans que l'on peut entendre. Le rassemblement se veut apolitique, pacifique, pas question donc de se laisser perturber par cette banderole déployée par des identitaires sur le toit d'un immeuble. Aminata observe dépité.
Il y avait une banderole du coup de militants pour le Rassemblement National où il y avait marqué « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc » donc qui a été tirée par les voisins. Et c'est pour ça vraiment qu'on était en colère parce qu'aujourd'hui on milite pour une justice qui soit équitable, pour des conditions de vie qui soient équitables et pour qu'on arrête voilà, de nous traiter de délinquants et de personnes juste immigrées alors qu'on a des droits comme les Français blancs, comme les Français et voilà.
Et les manifestants comme Aminata espèrent bien qu'Emmanuel Macron fera au moins allusion à leur mouvement lors de son allocution demain soir.
Boris Allier, place de la République à Paris avec Jérémy Tuile. S'agissant des militants de génération identitaire qui avaient donc déployé une banderole sur le toit, 12 d'entre eux ont été interpellés en marge donc de ce rassemblement. Des centaines de manifestants se sont pareillement rassemblés toute la journée à Lyon, Lille, Rouen, Nantes ou bien en ce moment même encore à Marseille. Pour un tour de France des manifestations en images, voir le site franceinter.fr. À Paris, les manifestants ont donc été bloqués sur la place de la République. La préfecture a rappelé que la manifestation n'était pas autorisée en vertu de l'état d'urgence sanitaire, que le rassemblement avait été toléré, pour reprendre les mots du ministre Christophe Castaner. Une façon de procéder parfaitement odieuse pour Jean-Luc Mélenchon, venu tout à l'heure à la manif. Pour le leader de la France insoumise, il faut laisser les gens se déplacer, sauf à vouloir entretenir, dit-il, dans le pays, un climat très malsain.
Le préfet allemand n'est pas dans un état mental normal qui correspond à ce qu'on attend du chef de la police dans des situations comme celle-là. Le désordre et la pagaille, les abus de pouvoir viennent du haut, viennent d'abord du haut. Si ces gens-là et le préfet allemand se comportaient autrement, sans doute que les mauvais éléments à la base ne se comporterait pas comme il se comporte. qui laisse les gens se déplacer. Qu'est-ce qu'ils veulent, là? Comment, à leur avis, comment ça va se passer? Donc les gens vont être rassemblés, il y aura des prises de parole, et puis tout d'un coup, on va dire, nous vous ordonnons de vous disperser. Et comment ça va se passer? Les gens sont nassés, ils vont les gazer, on sait bien comment ils font. Peut-être qu'ils vont leur tirer dessus, peut-être qu'ils vont en éborgner, peut-être qu'il y aura des mains arrachées. Comment voulez-vous faire quand vous êtes enfermé sur une place? Non, c'est très malsain.
Jean-Luc Mélenchon avec Valentin Dunat. La dispersion est maintenant en cours sur cette place de la République à Paris et le calme revient. Au-delà de ce débat sur les violences policières, c'est la question plus globale du racisme qui a partout fait écho. À Londres, après les tags sur la statue de Churchill, plusieurs centaines de manifestants antiracistes se sont rassemblés à Hyde Park pendant que des militants d'extrême droite se regroupaient pour protéger justement quelques statues. À Paris, c'est l'ex-maire de Nantes et Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui est monté au créneau pour demander que soient rebaptisées deux salles portant le nom de Colbert à l'Assemblée nationale et à Bercy. La pédagogie de la diversité doit concerner toutes les institutions, écrit dans une tribune du Monde celui qui est aujourd'hui le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle comprend l'émotion suscitée par son initiative. La direction de PSA, interpellée par le gouvernement, a donc décidé de revoir sa stratégie. Le transfert annoncé de 300 de ses salariés polonais vers le site d'Ordin dans le Nord devrait être annulé. Et à la place, pourrait être mise en place une équipe essentiellement constituée d'intérimaires français, comme le lui demandaient justement et le gouvernement et les syndicats. Si pour le constructeur automobile frappé par l'épidémie de Covid-19, il y a urgence à redresser la situation, personne n'aurait compris, Delphine Simon, que la dimension sociale de la crise soit laissée de côté.
Oui, durant le confinement, PSA a largement profité des mesures de chômage partiel. Le groupe bénéficie du plan de relance automobile de 8 milliards d'euros. Des gestes que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a sans doute rappelé ce matin au PDG de PSA, Carlos Tavares. Les deux hommes ont une bonne relation, rappelle en outre Bercy. La pression des syndicats et la pression politique ont, semble-t-il, convaincu le PDG de PSA de faire machine arrière. Il va donc faire appel à des intérimaires pour accompagner la montée en cadence de l'usine d'Ordin, des intérimaires qui remplaceront une partie importante des salariés polonais de Gliwice. Pour autant, la polémique n'est peut-être pas entièrement finie puisque 50 ouvriers polonais sont déjà à pied d'œuvre en Moselle, dans l'usine de Borny. Des salariés d'Opel de Kaiserslautern en Allemagne seraient également attendus à Trémery. PSA défend une solidarité industrielle entre les sites du groupe pour éviter des coupe claire, mais les syndicats s'interrogent. Quelle est l'utilité de déplacer des salariés européens à des milliers de kilomètres quand il reste des intérimaires sous contrat en chômage partiel chez eux?
Delphine Simon en précisant que 50 salariés polonais travaillent déjà en renfort sur le site PSA de Metz. Dans le Berry, c'est contre la suppression de 500 emplois que manifestaient ce samedi les salariés de deux plateformes logistiques de l'enseigne La Halle. L'enseigne fragilisée par deux mois de fermeture, bien sûr, pendant le confinement. L'enseigne La Halle, l'enseigne de vêtements, a été placée en procédure de sauvegarde fin avril et son propriétaire, le groupe Vivarte, avait fini par demander son redressement judiciaire à la fin du mois de mai à Issoudun, Emeline Ferry.
Dans la foule, il y a Michael. Il travaille au dépôt d'Issoudun depuis 27 ans.
On ne dort pas de la nuit, on est limite dépression. On a des maisons, des crédits sur le dos, donc on ne sait pas comment on va survivre. Ils ne veulent rien nous lâcher, donc on se bat pour avoir un minimum.
Même amertume chez Christine.
Inquiète pour la suite, mais très en colère. Très, très en colère. Et je crois qu'on est tous pareils. On nous prend vraiment pour n'importe quoi.
Avec sa pancarte « Je suis la Halle », Christophe parle déjà au passé.
Je travaillais depuis 28 ans. Puis bah, voilà, c'est terminé, quoi. Et pour retrouver un emploi à nos âges, c'est très compliqué, je pense.
Compliqué de retrouver du travail dans la région. Certains envisagent de partir, car c'est tout le département qui va être touché. Avec près de 500 emplois, La Halle est l'un des poumons économiques d'Issoudun. Ici, tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille. C'est pour ça que Louisette et Sandrine manifestent.
Je suis venue apporter mon soutien dans leur combat.
Solidarité, on est avec eux, on souffre avec eux.
Des centaines de familles qui vont se retrouver sur le carreau, avec des crédits sur le dos. En tête de cortège, André Léniel, le maire d'Issoudun, est révolté.
Les voir aujourd'hui risquer de perdre leur emploi, de se retrouver au bord de la route, c'est pour moi insupportable.
Les salariés promettent de ne rien lâcher. Ils manifesteront à nouveau samedi prochain à Châteauroux.
Deux repreneurs se sont manifestés à ce jour qui disent vouloir garder seulement 10% des effectifs, 50 salariés maximum. À ce chapitre des conséquences économiques de la crise sanitaire, comment indemniser mieux les TPE-PME dont beaucoup ont été fermés plus de 2 mois et auront du mal à s'en relever? Les assureurs, souvent pointés du doigt, y compris au plus haut niveau de l'État, proposent la création d'un nouveau dispositif qui pourrait leur permettre d'intervenir jusqu'à 2 milliards d'euros au total, à charge pour l'État de prendre la suite. Au-delà de cette somme, la nouvelle garantie pourrait être généralisée aux entreprises de moins de 250 salariés pour une adhésion de 150 euros par an en moyenne. Stéphane Penet, délégué général adjoint de la Fédération française de l'assurance, avec Soizic Bourg.
L'idée que nous avons, c'est d'offrir une garantie qui serait généralisée à toutes les petites et moyennes entreprises françaises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés, qui serait rattachée donc à tous les contrats les couvrant sur les risques traditionnels, et qui prévoirait, en cas d'obligation de fermeture décrétée par l'État, non seulement pour un risque de pandémie, mais on peut penser que ces fermetures pourraient aussi survenir sur d'autres événements. On pense à des menaces ou les suites d'un attentat terroriste, les menaces ou les suites d'émeutes populaires, et on se souvient de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, les menaces ou les suites d'un grand événement naturel, par exemple. Dès lors que ces entreprises seraient obligées de fermer, l'idée c'est que cette garantie leur permette de disposer d'un capital immédiat, rapide, qui dans les 15 ou 20 jours suivant cette fermeture, leur permettrait de passer le cap.
Il est 19h11 sur France Inter, c'est la suite du journal d'Yves Decamp.
On parlait à l'instant, Claire, de la manifestation du comité Adama Traoré bloqué sur la place de la République à Paris. Eh bien, à l'instant, c'est une information de Jean-Philippe Degnaud, chef du service police-justice de France Inter. À l'instant, le Conseil d'État annonce qu'il suspend l'interdiction de manifester pour le juge des référés. Cette interdiction n'est plus justifiée par la situation sanitaire du moment que les mesures barrières sont respectées. Le Conseil d'État souligne que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, donc plus d'interdiction de manifester. Pas de danger à Toulon. Les autorités confirment que l'incendie survenu à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque a été maîtrisé la nuit dernière, après 14 heures de lutte acharnée des pompiers. Elles confirment surtout, les autorités, qu'il n'y a aucun risque de radioactivité, le bâtiment ayant été vidé de son combustible et de son armement. Le Perle, c'est son nom, était en arrêt pour entretien et réparation quand l'incendie s'est déclaré à bord. Les précisions de la ministre Florence Parly.
Cet incendie a été majeur et il a été très impressionnant pour les nombreux Toulonnais ainsi que les habitants des communes de la Seyne-sur-Mer, d'Olioul et de Saint-Mandrier qui ont vu d'épaisses fumées s'échapper de la base navale. Pour autant, je précise à nouveau qu'aucun combustible nucléaire n'était à bord. Il n'y a donc aucun risque à craindre de ce point de vue-là. Par ailleurs, des experts indépendants ont été mobilisés par la préfecture du Var pour mesurer la qualité de l'air et ont conclu à l'absence de pollution significative de l'air. Oui, bien sûr, il y a eu un incendie. Non, il n'y a pas eu d'accident nucléaire.
La ministre de la Défense au micro de Quentin Pérez de Tudela. La CRIRAD, Association d'information indépendante sur le nucléaire, confirme que les relevés du niveau de radiation n'ont signalé aucune anomalie, sauf peut-être une augmentation du rayonnement gamma sur la sonde de la Seyne-sur-Mer, qui nécessiterait donc des explications. Une perquisition ce matin à Marseille dans les locaux de campagne de la tête de liste LR au municipal. Perquisition qui fait suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire sur des soupçons de fraude aux procurations. L'hebdomadaire Marianne et France 2 avaient raconté jeudi comment deux colistières de Martine Vassal proposaient aux électeurs par téléphone et sans respect des procédures l'établissement de procurations simplifiées. Si les faits sont avérés, ils sont inacceptables, a commenté la candidate qui dit avoir demandé aux personnes incriminées de se retirer de sa campagne et de leur futur mandat en cas d'élection. À Marseille, où la liste du nom de la gauche de Michel Rubirola était arrivée en tête au premier tour, le scrutin du 28 juin s'annonce très serré. Sont également en lice la liste Rassemblement National de Stéphane Ravier et une liste divers droite conduite par Bruno Gilles. La mort de Jean Raspail, écrivain catholique traditionnaliste, apprécié des déclinistes et des identitaires. Il était l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont un roman consacré au roi de Patagonie, Antoine de Tounens. Il avait été lauréat du Livre Inter en 1986 pour Qui se souvient des hommes. Jean Raspail, qui se situait politiquement, selon ses propres mots, à droite. Droite allait avoir 95 ans. Allez, ce sera sur Facebook et Instagram le 15 juin à 18h. Un vernissage de l'exposition James Tissot, l'ambigu moderne, en direct sur les deux réseaux et accessible à tous les internautes. Une manière pour la chaîne franco-allemande de fêter la prochaine réouverture du musée d'Orsay à Paris et d'ancrer de nouveaux usages pour les internautes.
Chut ! Le concert va commencer. Les spectateurs arrivent tranquillement. La violoniste est seule sous le regard de deux Indiens.
Voilà, ce qu'on entend là, c'est un extrait du documentaire d'Arte sur James Tissot.
Tout le gratin est rassemblé, mais on s'ennuie un peu. C'est dans l'entrepont, en sous-sol, que l'on danse. Le bal sur le bateau.
Il y a une fascination chez Tissot pour ce monde-là, qu'il regarde donc avec une forme de désir, d'appétence, mais il garde toujours une forme de distance et d'ironie que les contemporains n'ont pas forcément vue dans les tableaux qu'il peint.
C'est une opération exceptionnelle que prévoit donc Arte le 23 juin pour la réouverture d'Orsay. Grande émission en direct, non pas à la télé, mais sur Facebook et Instagram, avec trois commissaires qui font le commentaire. Les lives, comme on dit en français, sont plus que jamais à la mode sur les réseaux. Et la chaîne sait se mettre au goût du jour. Amy de Jong, sa directrice pour les arts et spectacles, elle est au micro de Christine Siméon.
C'est la réouverture du musée suite au confinement. Donc en fait, il faut voir ce qui est inédit. C'est surtout les usages, c'est-à-dire qu'on a vu l'explosion d'Internet et des vidéos et du streaming là pendant le confinement. On ne peut que se dire qu'en fait, on voit l'appétit, le besoin de culture et de soutien de tout ce qui est l'art et les artistes. On va pouvoir maintenant, à travers cet outil formidable que les gens se sont peut-être plus appropriés, on va pouvoir créer de nouvelles expériences. Et là, justement, le fait de faire un vernissage exclusivement en ligne et en direct avec les commissaires, c'est une nouveauté.
C'est par centaines de milliers que les internautes suivent ces sessions sur les réseaux sociaux. Un filon qu'Arte compte amplifier à l'avenir. Et puisque les internautes sont de plus en plus doués, Arte gagne de plus en plus de fidèles parmi les 24-35 ans. Elle compte sur leur interactivité. Il sera proposé pendant ce live de choisir de s'arrêter sur un tableau plutôt qu'un autre. Les commissaires se plieront au choix majoritaire. Et pour mieux découvrir ce peintre au regard curieux et amusé, spécialiste du Second Empire, James Tissot, chroniqueur de la mode et des mœurs. Rendez-vous donc sur Facebook et Instagram le 15 juin à 18h et au musée d'Orsay physiquement à partir du 23 juin. Tous les détails sur franceinter.fr, rubrique Ma vie connectée de Christine Siméon et avec Christine Siméon, qui n'est pas là ce soir puisqu'elle a perdu sa voix. Dans un instant, la météo, des risques d'orages dans le sud-est hier. C'est un peu plus au nord aujourd'hui que ce sont... dans le sud-est hier, se sont abattus de vraies trombes d'eau et c'est un peu plus au nord qu'il faut les craindre ce soir, peut-être dans le Grand Est, on va y venir. En tout cas, c'était du jamais vu hier, en si peu de temps, et notamment dans la Haute-Loire, dans la commune de Brive-Charensac, par exemple, où les dégâts ont été très nombreux, Julien Gonzalez.
Nathalie Schultes ne peut que contempler les dégâts. Cette habitante de la rue des Hortensias a vu le ruisseau Farnier dévaler en trombe vers son immeuble. Les appartements ont été épargnés in extremis, mais les caves, comme la sienne, ont fini sous l'eau.
C'est le côté soudain, et puis ça remémore beaucoup la crue de 80, et je pense que c'est comme ça qu'on a peur, quoi. On avait un petit truc à pétrole, un congélateur, des vélos, toutes mes choses de Noël qui étaient précieuses, des affaires de pêche. 30 ans de vie, quoi. Ah oui, là je pense que tout est perdu là.
Des particuliers touchés donc, mais pas que. Des commerces ont aussi la marque de la crue ce samedi, comme cette entreprise de sanitaire située juste en contrebas du ruisseau. Michael Faure, le gérant, s'active pour nettoyer une partie de son dépôt.
On a des pertes, je pense qu'on a du mal encore à le dire, mais qui sont estimées entre 0 et 200 000 euros. Il y a malheureusement des chauffe-eau qui ont trempé dans l'eau, pas mal de matériel où il y a de l'électrique dedans, de l'électronique. On n'avait pas besoin de ça, on est déjà à moins 20% de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Avec le Covid-19, on souffre. J'espère que ça va s'arrêter, quoi. On a passé le Covid, on passera l'eau maintenant.
Un patron qui croise les doigts pour pouvoir ouvrir ce lundi et qui est plutôt confiant puisque la vigilance orange au risque de crue a finalement été levée en Haute-Loire à 16h ce samedi.
Julien Gonzalez et la météo, c'est tout de suite.
Et ben oui, et puis c'est oui, dans un instant.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et vous voulez savoir avec qui, Yves Decamp ?
Jean-Michel Golinski.
Bravo, quel duo.
Déclin progressif de l'activité orageuse en fin d'après-midi soirée dans les quarts nord-ouest et sud-est du pays. En revanche, entre Champagne-Ardenne, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Alsace, ils vont perdurer une partie de la nuit en donnant de plus fortes quantités de précipitations près de la frontière allemande. Demain, amélioration sur le front des orages qui auront partout disparu du paysage. En revanche, il restera pas mal d'averses le matin du quart nord-est aux Alpes. Elles auront tendance à disparaître en journée. Près des Pyrénées, sur le centre et de la Bretagne aux Charentes, on ne sera pas à l'abri d'ondées alors que partout ailleurs la journée sera ensoleillée, mais avec un ciel beaucoup plus dégagé sur le bassin méditerranéen en raison d'un vent assez fort. Les températures vont afficher 25 à 27 degrés près de la Méditerranée, 20 à 22 sur la façade atlantique et dans le nord-est, il est prévu 23 dans la capitale en Rhône-Alpes et sur la Corse et 24 degrés dans le nord.
Jean-Michel Golinski de Météo France.